Session de théologie par le Père Marie-Dominique Philippe. Session de théologie par le Père Marie-Dominique Philippe le 6 novembre 1994 à Rimont. Cinquième conférence, le Christ rédempteur.
Passage extraordinaire C'est une théocratie, hein, le peuple d'Israël, dans l'intention de Dieu. Et le peuple d'Israël a voulu avoir un roi. Alors, il ne faut pas oublier, hein, que Jésus a été condamné. Les grands prêtres ont emporté leur intention de tuer Jésus. Lorsqu'ils ont dit que Jésus voulait être roi, que Jésus était le roi d'Israël, donc il était contre César. autres, ils sont premiers. Premiers dans l'ordre de la vie. Premiers dans l'ordre de la loi. Premiers dans l'application. Premiers dans le gouvernement. Premiers dans l'ordre religieux. Il y a cinq têtes qui partagent l'autorité. Et les prophètes, au-delà de l'autorité, sont des instruments de Dieu. Et rappellent tout le temps l'exigence divine. Donc on peut dire cinq autorités. Et le prophète au-dessus. Faut mettre même au-dessus, donc faut même pas le mettre le sixième, c'est pas tout à fait juste. Le prophète, ils sont instruments d'Yahvé. Que fait Jésus? Il est l'envoyé du Père. Il est l'envoyé du Père. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et cette médiation est une médiation sacerdotale. Et tout se ramène au sacerdoce du Christ. Et le sacerdoce du Christ, en quelque sorte, assume la paternité. Le législateur, l'Eucharistie, c'est le testament du Christ. C'est la nouvelle loi, c'est l'Eucharistie. Hein. La super loi, c'est l'Eucharistie. Il est roi. Mais roi, comme prêtre, donc une royauté dans la pauvreté. Jésus n'a jamais exercé la royauté temporelle. Jamais. Il est roi des rois. Parce que cette royauté passe par le sacerdoce, c'est une royauté intérieure, dans la pauvreté. Et il est celui qui est prophète. Mais tout ça à l'intérieur du sacerdoce. Et ce que l'Épître aux Hébreux montre, c'est qu'en effet, l'acte par lequel Jésus nous sauve, c'est un acte sacerdotal. Oui, j'avais pas assez insisté là-dessus hier, je voulais le faire, et puis on n'a pas eu le temps. Mais ça, c'est très très important. Le mystère de la rédemption se réalise dans un acte sacerdotal. Et la nouvelle alliance, c'est une alliance dans le sacerdoce de Christ. Sacerdoce royal des fidèles, sacerdoce ministériel. Alors comprenez que le sacerdoce ministériel est ordonné au sacerdoce des chrétiens, au sacerdoce royal des fidèles. Marie est la première dans le sacerdoce royal des fidèles. Et le pape est premier, Pierre, dans le sacerdoce ministériel. Si on veut comprendre quelque chose dans le mystère de l'Église, il faut regarder Pierre et Marie. Et Jean est avec Marie. C'est la vie religieuse. La vie religieuse n'est pas du côté sacerdoce ministériel. La vie religieuse est du côté du sacerdoce royal des fidèles. Oui, le sacerdoce royal des fidèles, c'est la paternité, c'est la maternité de Marie. Et le sacerdoce ministériel, c'est l'autorité. Il faut bien comprendre ça, c'est capital ça. Je vous le dis rapidement, mais ce qui est important à voir dans le mystère de la rédemption, c'est que justement, c'est un acte sacerdotal que Jésus a compris comme grand prêtre. C'est pour ça qu'un très bon exégète, faisant l'exégèse de l'Épître aux Hébreux, j'oublie son nom, mais je pourrais vous le dire. Je demanderai au père John Thomas de me le dire. Un très bon exégète de l'Épître aux Hébreux a montré que Jésus est grand prêtre à la croix. Et c'est vrai, c'est l'Épître aux Hébreux. Son acte sacerdotal, c'est à la croix. Pour nous faire comprendre que toute la nouvelle alliance est sacerdotale. où le prêtre et la victime sont identiques. Et c'est parce que le prêtre et la victime sont identiques qu'on comprend la place particulière du sacerdoce royal des fidèles, Marie, au pied de la croix. Et ça, je crois que c'est la vision la plus profonde du mystère de la rédemption. Hier, j'ai essayé de vous le montrer par rapport au mystère de l'amour. Il faut comprendre que cet amour va se réaliser à travers le sacerdoce du Christ, l'offrande de tout lui-même. Parce que le propre du sacerdoce du Christ, qui est un sacerdoce d'amour, c'est que le prêtre et la victime sont identiques. Jésus à la croix, il est l'agneau. Il est le jeune taureau. À la croix, il est la victime et il est le prêtre. Et le mystère de l'Eucharistie va nous rappeler comment le sacerdoce ministériel se définit, et c'est le pape actuel qui l'a dit, par l'Eucharistie. Dans une des lettres que le Saint-Père adresse au prêtre le jeudi saint, il a dit la raison propre du sacerdoce ministériel, c'est l'Eucharistie. Le prêtre du sacerdoce ministériel se définit par l'Eucharistie. S'il n'y a plus de prêtre, l'Eucharistie est absente. Et les vieux missionnaires disaient toujours, l'Église, elle est dans un lieu, dans tel diocèse, lorsque l'Eucharistie est présente. La parole ne suffit pas. La parole de Dieu ne suffit pas. Elle s'achève dans l'Eucharistie, ce qui est tout à fait juste. La première partie de la messe, c'est l'enseignement de la parole. Et cet enseignement de la parole est ordonné à la consécration. Et le sommet de l'Eucharistie, c'est la consécration. Et la conséquence, le fruit, c'est la communion. Oui, vous savez, la parole de Dieu, qui implique tout point de vue du début de la messe, puis vous entrez dans le canon, ordonné à la consécration. Et le fruit de la consécration, c'est la communion. C'est les trois grandes parties de la messe. Et ceci pour nous rappeler constamment que le mystère du salut, c'est Jésus, grand prêtre, qui s'offre comme victime d'amour pour nous. Donc, la vision ultime que nous devons avoir du mystère de la rédemption, c'est de comprendre que Jésus est l'agneau, qu'il est la victime, et que cette victime est identique à ce sacerdoce d'amour. La rédemption se fait dans le mystère du sacerdoce. Et que chacun d'entre nous, être chrétien, c'est participer au sacerdoce du Christ. Et nous participons tous au sacerdoce du Christ, dans le sacerdoce royal des fidèles. C'est que par la charité fraternelle, nous sommes responsables de nos frères. Et c'est pour ça qu'au cœur de notre vie chrétienne, c'est la charité fraternelle. Celui qui n'a pas le sens de la charité fraternelle n'est pas chrétien. C'est la charité fraternelle qui est le dernier critère de la vie chrétienne. Ça, c'est capital de comprendre ça. C'est très beau, du reste, et c'est très grand. Et là, on comprend la place profonde de Marie dans l'économie divine. Marie est première dans l'ordre du sacerdoce royal des fidèles. Marie. Parce que le sacerdoce royal des fidèles est premier. Donc, on quitte ce rôle principal pour regarder un service. C'est triste. Ça prouve qu'on n'a pas compris le mystère de Marie. Vous voyez Marie réclamant à Pierre d'être sacerdoce ministériel. Vous voyez ça, hein? Marie, elle envoie Pierre à Rome. Hein? Je passe avant toi. Je connais bien mieux Jésus que toi. C'est moi qui dois reprendre la place. D'être évêque de Rome, tu seras peut-être premier, mais moi je serai évêque de Rome. Oui, ça c'est la grimace du démon par rapport au mystère du sacerdoce royal des fidèles. Je crois qu'il faut voir ça avec beaucoup de netteté. Et c'est peut-être, je dis peut-être, c'est peut-être le venin ultime du serpent. C'est peut-être l'ultime tentation pour aller contre cette vision de sagesse si grande du Père à l'égard du mystère de la croix. En faisant ça, on dit, on proclame, sans le savoir, qu'on n'a rien compris au mystère de la croix, de la sagesse de la croix. La sagesse de la croix, c'est que Jésus, source de tout sacerdoce, est prêtre et victime, et qu'il a voulu que son sacerdoce impliquant l'état victimal se propage, soit participé par tous les fidèles. On est dans notre vie chrétienne à partir de la blessure du cœur du Christ. Et la blessure du cœur du Christ exprime symboliquement, mais réellement, l'état victimal du Christ, l'agneau immolé. Et nous naissons à la vie divine à travers la blessure du cœur blessé du Christ. Nous sommes liés par notre grâce sanctifiante à la blessure du cœur du Christ. Et c'est cela être chrétien. Comprendre qu'on est né à partir de l'état victimal du Christ. Et que notre naissance à cette vie divine nous lie au salut du Christ. Nous lie au Sauveur. Et que chacun d'entre nous, si nous voulons aller jusqu'au bout de notre vie chrétienne, c'est de comprendre que nous sommes responsables de nos frères. Dans ce sacerdoce royal des fidèles qui s'exerce dans la charité fraternelle, en premier lieu, et que pour que ce sacerdoce royal des fidèles puisse croître, pour que la charité fraternelle puisse croître, Jésus nous donne comme nourriture sa parole, son enseignement, son cœur blessé. Et nous demande l'obéissance à Pierre, les trois alliances, les trois nourritures. Je crois que c'est capital aujourd'hui de comprendre cela. Parce qu'on sent que les attaques du démon sont ultimes. Celui qui veut comprendre un tout petit peu ce qui se passe actuellement dans le monde, et nous avons le devoir de le comprendre, été à huis clos. Mais grâce à Dieu, ça a paru dans la documentation catholique. Je me suis précipité dessus, ça m'intéressait beaucoup de voir ce que le pape, première fois qu'il vient à Paris, qu'il proclame et qu'il rappelle à l'Église, à la France, qu'elle est fille aînée de l'Église. Qu'est-ce qu'il dit? Il montre que l'Église, aujourd'hui, est en présence d'une méta-tentation. Que l'Église vit une méta-tentation. Vous voyez, le langage philosophique du pape. Pas une métaphysique, mais une méta-tentation. Que l'Église vit une méta-tentation comme elle ne l'a jamais vécue. C'est dit. On est donc en face de l'ultime tentation. Et quelle est cette ultime tentation? C'est que l'humanité arrive à l'âge adulte. Elle pense arriver à l'âge adulte. Elle réfléchit sur elle-même. L'âge adulte, c'est la relecture. Que l'Église arrive à l'âge adulte, elle croit. Je veux dire, l'humanité arrive à l'âge adulte. L'humanité arrive à l'âge adulte. Elle croit pouvoir se sauver elle-même. Et il n'y a plus de place pour le sauveur dans la culture actuelle, dans la culture qui émane de cette humanité adulte. Il n'y a plus de place pour le sauveur. Il n'y a plus de place pour la rédemption. Il n'y a plus de place pour le sacerdoce. Et tout vient de là. Si on est un tout petit peu attentif à toutes les luttes qui se font actuellement. Donc on est, je crois, en face de l'ultime tentation, la méta-tentation. Alors il faut la comprendre. Et quand le pape le dit, ben, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Ça n'a pas été beaucoup répété. C'est curieux. Alors, quand un pape dit ça, on devrait tous être attentif à ça. Parce que ça vient du Saint-Esprit, moi j'en suis sûr. C'est l'état prophétique. C'est une parole prophétique, faites attention. On ne veut plus du sauveur. On n'a plus besoin. Les hommes pensent se sauver eux-mêmes. Parce qu'ils sont arrivés à l'âge adulte par le progrès de la science et la technique. Et donc ils n'ont plus besoin du sauveur. Le sauveur, c'était bien pour le Moyen-Âge. Quand on n'avait pas encore la science et la technique. Maintenant, on a la science et la technique, on arrive à dominer la vie, on arrive à pouvoir se sauver soi-même. Hein? Quelqu'un a dit, évidemment avec un peu d'humour, on pourra arriver à créer un homme qui ne meurt plus. Et l'humanité cherche un homme qui ne meurt plus. Il n'a plus besoin de sauveur. Parce que devant la mort, on se dit, hein, même Mitterrand, hein, quand il est obligé de lui dire, hein, vous allez peut-être mourir bientôt, hein, est-ce que vous y pensez? Un jour, vous apparaîtrez devant quelqu'un qui peut-être vous dira, hein, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Alors, il a eu une réponse, hein, tout évasive, oui, je pense au transcendant. Échappé. Est-ce que vous pensez à l'archevêque de Paris? Vous ferez peut-être bien de faire une petite visite. Hein. C'est-à-dire vous confessez, c'est ça? Il n'y en a pas besoin. Je pense qu'au transcendant. Oui, c'est le cogito de Descartes. Je cogite la transcendance. C'est Descartes. C'est-à-dire, je pense à moi. Et je suis. C'est ça que ça veut dire. Enfin, réellement, quand on essaie de pousser jusqu'au bout, je pense à moi. C'est moi. Vous voyez, je crois qu'on ne voit pas assez, qu'on vit quelque chose qui n'a encore jamais été vécu dans les tentations du démon, et que ça regarde le sacerdoce. Parce que Dieu a voulu l'Épître aux Hébreux et Saint Jean. Dieu a voulu sauver le monde dans un acte sacerdotal. Mais pas le sacerdoce ministériel, comprenez bien. Le Christ n'est pas prêtre ministériel. en réalité, substantiellement, par le mystère même de son incarnation. Et le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et les prêtres, avant tout. Et c'est ça qui explique l'attitude de Jésus, du reste. Hein. Le peuple d'Israël voudrait proclamer roi. C'est pas du tout que le peuple d'Israël voulait le proclamer prêtre, grand prêtre, non. Mais la frousse intense des grands prêtres. Si on accepte Jésus, ah, on sera déplacé. Les grands prêtres disparaîtront. La jalousie farouche, c'est une jalousie sacerdotale et pontificale. Jésus est mort à cause d'une jalousie pontificale des grands prêtres. C'est la jalousie des grands prêtres. Il s'est servi de la petite jalousie terrible de Judas à l'égard de Jean. Judas a été terriblement jaloux à l'égard de Jean. Il aurait voulu être le disciple bien-aimé. Et quand il a vu Jean auprès de Jésus, à la scène, Jésus le prenant sur son cœur, ça a achevé tout ça. Nous verrons ça au ciel. Vous verrez. Hein. Et puis vous viendrez me dire si c'est bien ça, hein, que je vous ai dit aujourd'hui. Jean est le seul qui parle de la tentation de Judas. Si on essaie de comprendre, il ne peut pas dire que c'est à cause de lui. Non, il dit le disciple bien-aimé. Vous comprenez très bien que Jean ne peut parler du disciple bien-aimé que quand tous les apôtres sont morts. Pour moi, ça date l'évangile de Jean. Et toutes les autres dates, ça ne signifie rien du tout. Jean ne peut dire qu'il est le disciple bien-aimé que quand tous les autres sont morts. Autrement, ce serait d'un déplacé, hein. Par rapport à Pierre, hein, ça. Mais je passe avant lui, moi je suis le disciple bien-aimé, lui, c'est l'homme qui gouverne. Pas du tout, mais c'est comme ça pourtant la réalité. C'est qu'il y a un mystère d'amour qui est le sacerdoce royal des fidèles. Tout prêtre de sacerdoce ministériel, avant d'être prêtre sacerdoce ministériel, il est un baptisé. Il a fait sa première communion. Il a été confirmé. Il est un disciple bien-aimé de Jésus. Dans son sacerdoce royal des fidèles, il est un disciple bien-aimé de Jésus. Et le sacerdoce ministériel est ordonné à cela. Vous voyez ? Pour ça, quand on cherche à être prêtre, plutôt que d'être saint, c'est la terrible hérésie. On doit tous chercher la sainteté. Être des disciples bien-aimés. C'est ça la sainteté. Être des disciples bien-aimés. Et on l'est par le baptême. On l'est par notre grâce sanctifiante. C'est pas le sacerdoce ministériel qui te fait de tout des saints. Au contraire, on sait que c'est très difficile à dépasser. Parce que le sacerdoce ministériel donne une place. On est prêtre. On a une certaine autorité. Et on confond très facilement l'autorité et le pouvoir. Et on devient des dirigeants de sa paroisse. Ou du ministère dans lequel on est. Oui. Et ça, c'est terrible. Parce que ça met un voile à la sainteté. Ça fait passer devant quelque chose de très beau. Le sacerdoce ministériel, c'est très grand. C'est très grand. Mais c'est un service. C'est un service. Le service à l'égard du corps du Christ et du cœur glorieux du Christ au niveau sacrement. Le prêtre est serviteur, le prêtre de sacerdoce ministériel. Il est serviteur des amis du Christ. Jean a compris que son sacerdoce, il était serviteur et fils bien-aimé de Marie. Et tout entier ordonné à sa mère. Le premier sacerdoce ministériel de Jean, c'est d'être ordonné à la sainteté de Marie. Vous ferez des choses plus grandes que moi. Et c'est vrai, Jean a fait quelque chose de plus grand. Il a conduit Marie de la compassion après la résurrection. plus grande qui a été vécue dans ce monde, cette dernière période de la vie de Marie, qui est liée au mystère de l'Eucharistie. Et cette dernière période de la vie de Marie, elle est remise au sacerdoce ministériel de Jean. Ça, c'est très beau. Vous savez, si Jésus avait été jaloux, il y a des prêtres qui sont jaloux. Hein, ça arrive, vous savez, on n'a qu'à pas. Ah, c'est ma filotée. Et c'est une sainte, hein, c'est une sainte. J'ai cet honneur extraordinaire d'être le patron d'une sainte. Quand même quelque chose, hein. Je suis prêtre d'une sainte. Jésus aurait le seul rire. Thank you.
Session de théologie par le Père Marie-Dominique Philippe. Le 6 novembre 1994, à Rimont, le Christ Rédempteur. Sixième conférence.
Priez quand les enfants décident. C'est Hélène. Alors, oui, j'avais raison de vous dire qu'il fallait tout de suite frapper à la bonne porte. C'est-à-dire... Donc c'est Albert. Voilà. Professeur à la Grégorienne. La et on lutte. Il n'y a pas de messianisme temporel. Le messianisme temporel ultime, c'est la théologie de la libération. Et nous devons comprendre que la croix nous donne une victoire divine. Par la croix, nous sommes des citoyens du ciel. Par la croix, nous sommes appelés à la vision éthique. Par la croix, nous sommes appelés à vivre du mystère de la très sainte Trinité, éternellement. Ce n'est pas une victoire temporelle, c'est au contraire un échec temporel, visible, le plus grand échec temporel qui soit. Mais cet échec temporel est assumé entièrement par l'amour divin. On ne cherche pas l'échec, hein. Chercher l'échec, c'est du sadisme. Enfin, celui qui dit « je vais être pauvre », voilà, je me précipite dans tous les échecs possibles, surtout pas, surtout pas. L'échec, on le subit, et on sait qu'on doit le subir. Quand le pape dit qu'il n'y a plus maintenant que la souffrance, c'est ça que le pape veut dire. C'est comprendre que l'échec est porté dans l'amour. Et le ricanement du démon, c'est dire « ah oui, tout ce que tu as promis, tu l'as raté ». Et c'est ce qui tue dans la presse, par rapport au pape. C'est un échec terrible, dit-on, que le pontificat de Jean-Paul II. Ça, c'est le ricanement du démon. Discernons bien les ricanements du démon de la voix de l'Esprit-Saint. Le démon ne fait pas sourire. Marie sourit et le démon ricane. C'est toujours comme ça. Et alors on doit discerner les ricanements du démon autour de nous pour ne pas tomber dans le piège. Le démon n'a aucune autorité. Mais là, Dieu lui a laissé un grand pouvoir. Il n'a aucune autorité. C'est pour ça qu'on ne doit jamais obéir au démon. Ce n'est pas une obéissance, ce serait une faiblesse. Ce serait se laisser séduire. Marie au pied de la croix, c'est Marie donnée à Jean. Il y a un ordre, vous voyez. Jésus, Marie, Jean. Tout vient du sacerdoce du Christ. Tout vient de l'acte par excellence, l'acte propre du grand prêtre, de notre grand prêtre. Nous avons un grand prêtre qui est fils bien-aimé du Père. Alors c'est ça que nous devons saisir. Nous avons un grand prêtre qui est fils bien-aimé du Père. Alors le sacerdoce, je vous posais la question, pourquoi c'est par le sacerdoce que nous est manifesté de la manière la plus éclatante l'amour du Fils pour le Père et l'amour du Fils bien-aimé pour nous. C'est parce que l'acte propre du sacerdoce, c'est un acte d'adoration qui se concrétise, qui se réalise, qui s'incarne dans un holocauste. Et par cet holocauste est manifesté ce qu'il y a de plus grand dans la créature, Jésus, dans son humanité au sens strict, n'est pas une créature, son âme est créée, mais il est fils bien-aimé du Père. Et Jésus, par l'holocauste de la croix, nous montre ce qu'il y a de plus grand dans le cœur de l'homme, c'est de pouvoir s'offrir au Père en holocauste d'amour à travers un acte d'adoration et un acte de contemplation du Père. Contemplation où on est dans cette passivité et en même temps dans ce don. La suprême activité, c'est l'amour. C'est l'extase de l'amour. Et la contemplation est extatique. Elle se réalise dans l'amour. Et dans cette lumière, dans l'amour. C'est ce qu'il y a de plus grand. Et c'est pour cela que le Père a choisi l'holocauste de la croix, l'acte propre du sacerdoce de son Fils bien-aimé, pour être l'ultime manifestation du Dieu amour, du Père qui est amour, de la très sainte Trinité qui est amour. Il y a là comme l'ultime manifestation, la manifestation la plus grande. Dieu ne pouvait pas manifester davantage son amour qu'en faisant de son Fils bien-aimé, par l'incarnation, le médiateur sauveur, le médiateur prêtre. La médiation, le sacerdoce est une médiation, mais une médiation de salut, une médiation de vie, une médiation d'amour. C'est pas une médiation purement intellectuelle, c'est une médiation intellectuelle en vue de l'amour. Et c'est ça le propre du prêtre, médiateur d'amour dans la miséricorde. Et cette médiation d'amour, tout chrétien doit la vivre dans la charité fraternelle, dans le mystère de la charité fraternelle. Et c'est pour ça que l'ultime révélation, selon saint Jean, c'est bien la charité fraternelle. Alors, comprenons Marie au pied de la croix. Marie, sous le sceau de l'Esprit Saint, comprend qu'elle doit achever dans son âme ce qui manque à la passion du Christ. Saint Paul le dit, mais Saint Paul le dit par rapport à son corps, et Marie le dit par rapport à son âme. Marie aurait été soulagée de pouvoir verser son sang à la croix. Et Marie n'a pas versé son sang à la croix, elle a versé ses larmes. Notre-Dame de la Salette. Et aujourd'hui, les larmes de Marie. Ça, c'est aussi très significatif. Quand la mère pleure, c'est celle qui est à la croix. Et c'est l'ultime moment des révélations. C'est Marie qui pleure. Vous savez qu'au Japon, même un évêque a été témoin des pleurs de Marie. C'est quand même aussi quelque chose de très très significatif pour notre monde d'aujourd'hui. Pour moi, la Salette est quelque chose de très grand à ce point de vue-là. Marie pleure à la croix. Elle veut achever dans son âme ce qui manque à la passion du Christ. Alors comprenons bien, il ne manque rien à l'acte sacerdotal du Christ qui offre sa vie. Il ne manque rien du côté de l'intensité de l'acte d'amour. Cet acte d'amour a une valeur infinie au point de vue mérite, au point de vue satisfaction, au point de vue rachat, au point de vue manifestation de l'amour. Cet acte a une valeur infinie. La plénitude d'amour qui est dans le cœur humain du Christ, ce cœur humain transformé par cette plénitude de grâce, cette plénitude de charité. Ce qui manque, c'est l'extension. C'est ça qui est très beau à comprendre. C'est que dans l'ordre de l'amour, l'amour demande toujours de se diffuser. Bonum diffusivum. Le bien est diffusif. Et l'amour, c'est le bien vécu. Et donc, il demande de s'épanouir. Il demande de s'étendre, d'aller le plus loin possible. C'est du côté de la diffusion de l'amour, de l'extension. C'est très, très difficile à traduire le diffusivum. C'est l'amour qui demande d'être conquérant. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. En français, c'est ça qui traduit le mieux le diffusivum. C'est la conquête de l'amour. L'amour est toujours victorieux. Il demande d'être conquérant, d'aller le plus loin possible dans sa conquête. Il est victorieux. Et l'amour de Jésus pour le Père en s'offrant conquiert le cœur de Marie. La grande conquête que fait l'amour du cœur du Christ à la croix, c'est le cœur de Marie. Il faut que le cœur de Marie soit entièrement brûlé. Je suis venu apporter le feu sur la terre. Et mon unique désir, c'est que ce feu brûle tout. Bien, à la croix, le feu qui est dans le cœur du Christ, cet amour plaigné qui est dans le cœur du Christ, brûle le cœur de Marie et conquiert le cœur de Marie. Et le cœur de Marie est entièrement conquis par cet amour. Ça, c'est le mystère de la compassion. Et c'est ce mystère diffusivum de l'amour. Alors, comprenons comment se fait cette conquête autant que nous pouvons. Cette conquête, c'est que Marie soit toute relative à Jésus. Femme. Jésus l'exprime en disant femme. La femme, selon le langage biblique, c'est celle qui est l'aide de l'homme. Le mot hébreu est magnifique parce que c'est le même mot que l'homme en ajoutant quelque chose. Elle est relative à l'homme. Ève est toute relative à Adam. Elle est la femme, la première femme. Et Marie est la première femme, la super femme, la femme par excellence. La femme qui est tout aimée, peu le cantique des cantiques, il faut le lire dans la lumière de la croix. Et dans la lumière de cette alliance de Jésus époux, grand prêtre. Alors là, c'est aussi une des dimensions merveilleuses qu'il faut comprendre. Le sacerdoce du Christ, c'est le sacerdoce de l'époux. Le sacerdoce du bien-aimé qui attire à lui la bien-aimée Marie. Même les méthodes, parce que là il est le maître des méthodes, mais il n'est jamais le maître de la mer. Chacun d'entre nous, et les hommes les plus hommes qui soient, et les plus virils qui soient, ils ont été des petits enfants à l'égard de leur mère. Et ça reste tout le temps. Ils ne veulent pas l'accepter. On rejette la mer aujourd'hui. Ça, c'est la grande victoire du démon apparent. C'est rejeter la mer. Faut pas l'oublier. Il y avait un freudien qui voulait être plus freudien que tous les freudiens, en disant je veux être plus freudien que tous les freudiens, comme les royalistes, je veux être plus royaliste que le roi. Il l'a dit ça. Il habitait à Neuchâtel. Des psychanalystes, et il voulait tuer la mer. En disant la chose la plus terrible pour l'homme, c'est le lien avec sa mère. Parce que la mère est captative. Et donc pour libérer l'homme, il faut le libérer de la mer. Ça a été dit. Il y avait même des articles de ce psychanalyste dans les journaux les plus féminins qui soient. Il ne voyait pas qu'en faisant ça, on tuait la femme. L'attaque du démon, elle est là. Il y a une inimitié entre le démon et la femme. Faut pas l'oublier, cette inimitié, elle éclate aujourd'hui. Et personne ne voit rien. On croit pas que c'est démoniaque. Marie, elle est la femme à la croix. C'est Jésus qui nous le dit. Femme. Moi, j'aimerais que quand on dit femme, voilà ton fils, on dise femme à la ligne, voilà ton fils. Et Jésus a dû prononcer ce mot, femme, avec un grand silence. Après. Parce que c'est... C'est cela qui constitue le mystère de la compassion. La femme, c'est le mystère de la compassion. C'est le mystère de la compassion, c'est le mystère de l'amour blessé, mais victorieux, mais blessé, blessé à mort. La femme est blessée à mort aujourd'hui. Et elle est victorieuse par Marie. Et elle est sauvée par Marie. Mais le démon veut la tuer. Il la tue. Regardez le nombre de divorces. Quand on voit ces femmes fidèles qui, au bout de 20 ans de mariage, au bout de 15 ans de mariage, reçoivent un petit mot de leur mari. Je te quitte. J'en ai trouvé une autre. C'est elle que j'attendais. Je t'aime plus. Vous croyez que ça ne tue pas le cœur de la femme, ça? Et aujourd'hui, c'est courant. Et c'est même dans un certain monde d'hommes. C'est là où on a vu qu'on est un homme. Parce qu'on devine la femme. On la tue. Vous savez, ce film qui a existé il n'y a pas longtemps, on montrait que l'acte par où on était un homme, c'était de tuer. Et ceux qui ont assisté à ce film ont essayé après. C'est terrible, on en arrive là. Ça, c'est, je crois, les attaques les plus ultimes du démon. Tuer la vie dans le sein maternel, ça c'est tuer la femme. Faire la femme homicide du trésor que Dieu lui a confié. Il faut qu'on voie ces choses-là dans la lumière de la sagesse de la croix et dans la lumière de la sagesse de la femme qui est mariée. Mais c'est pas pour rien, vous savez, que l'Esprit Saint a voulu que le mystère de l'Immaculée Conception, que le mystère de l'Assomption soit donné. Et c'est le mystère de l'Assomption et c'est le mystère de l'Immaculée Conception qui enveloppe Pierre, qui enveloppe l'homme, qui représente l'autorité du Christ sur la terre. La femme peut seul être le remède divin de notre pauvre cœur humain blessé et toujours un peu en révolte parce que il y a eu des refoulements terribles. Un enfant qui n'a pas été aimé de sa mère, c'est un terrible refoulement. Un enfant qui a été violenté par son père, c'est un terrible refoulement. C'est Marie seule qui guérit. Elle est la seule qui peut guérir. À la croix, elle est la femme, toute relative au nouvel Adam, Jésus. que la petitesse de l'enfant de Bethléem. Il est plus petit dans son expérience humaine qu'à Bethléem. Parce que quand on souffre de cette manière ultime, tout proche de la mort, comme crucifié, on connaît une fragilité, une vulnérabilité la plus grande qui soit, la plus radicale qui soit. Marie connaît comme mère la fragilité de son fils bien-aimé, fragilité dans l'amour, fragilité dans la force, fragilité dans la victoire de l'amour. Et Marie porte cela. Marie reçoit tout de Jésus, elle le sait. Elle reçoit tout de Jésus pour être tout à lui. Et pour être celle qui achève l'holocauste de la croix. C'est le rôle de la femme. D'achever l'holocauste de la croix et d'achever l'holocauste de la croix dans sa foi et dans son espérance. C'est dit par le prophète Isaïe, sponsabo in fide, sponsabo in misericordia, sponsabo in justitia, les trois. Et ça se réalise à la croix. Sponsabo, je t'épouserai dans la foi. Je t'épouserai dans la miséricorde, je t'épouserai dans la justice. Et c'est bien cela qui définit la femme. Elle est celle qui est épousée, la femme, au plan de la sagesse de Dieu, dans la lumière de la sagesse de Dieu. Elle est celle qui est épousée par Jésus dans la foi, c'est-à-dire dans la fidélité. C'est dans la fidélité. La femme est fidèle si elle compatit, si elle est toute relative à Jésus. Dans la fidélité, dans la miséricorde. Oh, c'est extraordinaire, dans la miséricorde. C'est-à-dire qu'elle est là, présente pour Jésus. Et elle est la seule joie que Jésus connaît à la croix. Cause de notre joie, cause de la joie du crucifié. La plus grande joie que Jésus a eue à la croix, c'est la fidélité de Marie, c'est la présence de Marie. À la fois, Marie a apporté un surcroît de souffrance, parce que Jésus était source de souffrance pour Marie, mais comme cette souffrance est entièrement portée par l'amour, c'est la joie. C'est pour ça que les sculpteurs chrétiens du XIIe siècle représentaient Jésus crucifié, souriant à Marie, exprimant cette ultime joie du cœur du Christ crucifié, son regard sur Marie. Quand Jésus dit « femme », je crois qu'il y a un sourire merveilleux du Christ. Et Marie a gardé ça comme l'adieu d'amour de Jésus pour elle. Et la communiquer à Jean. Et Jean nous le donne comme un grand secret d'amour. Marie achève ce qui manque à la passion du Christ dans son cœur, dans sa foi, dans son espérance in fide, in misericordia et dans son amour in justitia. Ça, c'est la justice suprême. La justice suprême, c'est que la petite créature en face de son Dieu qui meurt sur la croix soit là pour s'offrir avec lui. Ça, c'est la justice suprême. C'est une justice qui dépasse toutes les justices. C'est la justice dans l'ordre de l'amour. Si toi, innocent, tu meurs, je meurs avec toi. Si toi, innocent, tu donnes tout, je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est d'exprimer. résumer mon amour pour toi en te donnant tout. In justitia, la justice divine. Il faut saisir cette alliance qui se réalise dans le mystère de la rédemption. Et je ne peux pas comprendre parfaitement la rédemption si je ne vois pas ce fruit le plus merveilleux de la rédemption. C'est que Jésus dit à Marie, femme. C'est que Jésus peut dire à Marie, femme. Et que Jésus dit à Marie, femme. C'est la nouvelle créature. Vous voyez, la création, c'est terminé à la femme. C'est vrai, second récit de la création, selon la Genèse. Il a d'abord créé l'homme, et Dieu ne s'est pas reposé à avoir créé l'homme, parce que l'homme n'est pas le chef-d'œuvre de la création, c'est la femme. C'est la femme qui est le chef-d'œuvre de la création. Et Dieu s'est reposé après avoir créé la femme. C'est ça que tous les féministes d'aujourd'hui devraient comprendre. Parce que c'est vrai, chef-d'œuvre de Dieu dans l'ordre de l'amour. Et la recréation qui reprend tout sans négliger la création reprend tout à partir de la femme. Dans l'Ancien Testament, tout a été repris par l'homme, Abraham, et pas par Sarah. C'est curieux, mais c'est comme ça. Dieu a choisi Abraham, il aimait mieux Abraham que Sarah. Et dans la nouvelle alliance, tout est repris par Marie. Et non par Joseph. Pourtant, Joseph était un homme saint, plus saint qu'Abraham. Et ça n'a pas été repris par Joseph, c'était repris par Marie. C'est extraordinaire, ça. Et on le comprend à la croix, où Jésus dit femme, Marie. Tout est repris par elle, tout est repris dans son cœur, et par le cœur de Marie. Voilà ton fils. C'est tout de suite cette fécondité merveilleuse du mystère de la rédemption à travers Marie. C'est là où vous saisissez la médiation de la grâce, la médiation surnaturelle de Marie. Jésus veut faire comprendre à Marie et à Jean que la nouvelle création, la recréation totale de tout, se fait par Marie. Femme, voilà ton fils. C'est bien évident que Marie n'est pas la mère selon la chair et le sang de Jean. Elle est la mère selon la chair et le sang de Jésus, de la tête. Et parce que Jésus s'offre pour sauver son corps mystique, il sauve Marie. C'est vrai, Jésus est le sauveur de Marie. Non pas du tout que Marie ait péché, mais pour comprendre la surabondance d'amour. Jésus est le grand prêtre de Marie et le sauveur. Et Marie, recevant tout de Jésus, femme, et toute donnée à Jésus, toute relative à lui, dans son acte propre de sauveur du monde. Et Marie est toute donnée à Jésus pour réaliser avec Jésus l'œuvre de Dieu, le salut de Jean, le salut de l'humanité. Et à travers Jean, c'est le salut de l'humanité. enveloppe, Pierre, enveloppe l'infaillibilité de Pierre. Le point de départ et le terme, l'alpha et l'oméga. On ne voit pas Jean, parce que Jean est enfoui en Marie. Mais on voit Pierre. Ceux qui aiment Marie aiment le pape. Et ceux qui ont rejeté